France Inter.
Aujourd'hui, virus et bactéries, la guerre de l'antibiorésistance, racontée par
Pascal Cossard, professeur à l'Institut Pasteur et secrétaire perpétuel honoraire à l'Académie des sciences.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dans un monde saturé d'alertes climatiques, de canicules et de conflits, une autre menace avance sans bruit, à bas bruit. Elle ne fait pas la une des journaux, elle ne provoque pas de confinement et pourtant, elle tue déjà et beaucoup. Chaque année, plus d'un million de personnes meurent en effet d'infections devenues incurables. Et si rien ne change, elles seront près de 39 millions d'ici 25 ans. Pas à cause d'un nouveau virus, mais à cause des bactéries, ces vieilles compagnes du vivant qui petit à petit apprennent à résister à nos traitements. C'est ce que vient de rappeler une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée par la revue Nature il y a quelques jours. La résistance aux antibiotiques ou antibiorésistance s'aggrave pendant que la recherche de nouveaux traitements s'essouffle. Sur les 90 antibiotiques aujourd'hui en développement, seuls 15 sont réellement innovants et 5 seulement efficaces contre les bactéries dites critiques. C'est un gouffre d'innovation alors même que la pandémie bactérienne se propage. Les responsables, ils sont multiples. L'usage excessif des antibiotiques en médecine humaine, leur emploi systématique dans les élevages industriels, qui représente 73% de la consommation mondiale, et une hausse continue de la demande en viande dans les pays émergents. Résultat, des milliards de doses diffusées chaque année dans l'environnement, où elles exercent une pression invisible sur les microbes, un immense laboratoire à ciel ouvert où les bactéries testent, mutent, s'adaptent et triomphent. En 2050, selon les projections, près de 2 millions de personnes mourront chaque année d'infections résistantes, la plupart dans les pays les plus pauvres, mais les hôpitaux des pays riches ne seront pas épargnés. Et déjà, des médecins en Europe et aux États-Unis voient ressurgir des maladies que l'on croyait sous contrôle. Alors que faire quand les antibiotiques ne suffisent plus ? Eh bien, c'est là qu'entre en scène une idée ancienne, presque oubliée : utiliser des virus pour tuer les bactéries. On les appelle bactériophages ou simplement phages. Et c'est justement l'objet du nouveau livre de notre invité. Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter.
Cet après-midi, Michael Hochberg et son collègue Oliver Kaltz partent à la chasse aux bactériophages, des virus inoffensifs pour l'homme mais tueurs de bactéries et peut-être la clé pour résoudre l'épineux problème de la résistance aux antibiotiques.
Archives de 2017 d'une vidéo du CNRS. Bonjour Pascal Cossard.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob « Virus contre bactéries, une solution pour vaincre l'antibiorésistance » et vous commencez votre livre par un constat alarmant. C'est ce que j'expliquais également. L'antibiorésistance progresse partout dans le monde au point d'être qualifiée de pandémie silencieuse. Pouvez-vous nous dire exactement ce qui se cache derrière cette expression ?
Oui, alors, on parle d'une pandémie silencieuse parce qu'en fait, ce problème de santé publique va affecter toute la planète. Ça, c'est absolument évident. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une bactérie qui est devenue résistante ou une espèce de bactérie qui est devenue résistante aux antibiotiques. C'est que les bactéries qui sont responsables de grands problèmes sont toutes devenues résistantes aux antibiotiques. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a une infection, qu'on est traité par les antibiotiques, eh bien, cette infection résiste et on arrive quelquefois à des impasses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à soigner les patients.
Et on parle vraiment de pandémie ?
Alors, on parle de pandémie, pan en grec, ça veut dire tous, ça veut dire que toutes les bactéries sont devenues résistantes. Alors, elles ne sont pas multirésistantes, mais il y a quand même certaines bactéries qui sont multirésistantes. Par exemple, le bacille de Koch, Mycobacterium tuberculosis, qui est responsable de la tuberculose, et dans beaucoup de cas, multirésistant. Donc, on arrive vraiment à des situations qui sont extrêmement critiques.
Ouais, pandémie lente, invisible, mais dont les effets dépassent déjà ceux du VIH ou du paludisme. Et pourtant, ça ne fait pas la une des journaux tous les jours.
En fait, c'est le nombre de morts qui sont attribués à des résistances aux antibiotiques sont supérieurs au nombre de morts dues au paludisme ou dues au VIH. Le paludisme, c'est environ 700 000 morts par an, et on a plus de morts qui sont directement attribuables aux antibiotiques.
Et pourquoi on n'en parle pas ?
On en parle, mais les gens on n'en parle pas assez. Ouais. C'est-à-dire, c'est compliqué. On ne peut pas dire c'est telle bactérie responsable. Quand est arrivé le virus du Covid, c'était facile. On pouvait parler d'un virus, tandis que là, y a différentes bactéries. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Mm-hmm. Mais c'est là. La sonnette d'alarme, elle est tirée de multiples façons. Et je pense que ce livre fait partie de ces différentes façons d'avertir le grand public.
Comment les bactéries, Pascal Cossard, ont réussi à devenir aussi résistantes à nos traitements alors que les antibiotiques ont longtemps semblé tout puissants précisément?
Alors, les antibiotiques sont extrêmement puissants. Beaucoup d'antibiotiques ont ce qu'on appelle un spectre large, c'est-à-dire qu'ils peuvent tuer beaucoup d'espèces bactériennes. Mais les bactéries qui sont sur Terre depuis 3,5 milliards d'années ont réussi à s'adapter à des tas d'environnements qui étaient très très difficiles pour elles.
Et à des arsenaux thérapeutiques aussi donc.
Oui, et en particulier aux antibiotiques. Alors comment elles deviennent résistantes aux antibiotiques? Il y a essentiellement deux façons. Quand les bactéries se répliquent, il peut y avoir une petite erreur par-ci par-là. Et du coup, elles peuvent éventuellement devenir résistantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand cette population de bactéries qui s'est multipliée et qui contient une bactérie qui a muté, il va se trouver qu'en présence de l'antibiotique, toutes celles qui sont sensibles vont mourir, celle qui est résistante va survivre et elle va se multiplier, elle va dominer. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est que les bactéries peuvent acquérir du matériel génétique venant de l'environnement ou venant de leur petite voisine. Je m'explique.
Donc il y a des échanges.
Il y a les deux. Il peut y avoir soit une bactérie va avaler un morceau d'ADN qui traîne dans l'environnement, soit il peut y avoir directement des échanges, ce qu'on appelle du transfert horizontal, entre deux bactéries qui sont collées l'une sur l'autre et il va y avoir un transfert. Alors ce transfert, il peut être entre une bactérie qui est pathogène, qui est responsable d'une maladie, et une bactérie qui est commensale, qui est dans l'environnement. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les antibiotiques peuvent être des antibiotiques produits par des bactéries. D'accord ? Donc une bactérie qui produit un antibiotique, par exemple un streptomycèse. Ce streptomycèse, il produit des antibiotiques, mais il a lui-même des gènes de résistance à cet antibiotique. Mmh. Et donc ce streptomycèse, s'il rencontre une petite voisine, il peut éventuellement passer son gène de résistance. Donc vous voyez, les gènes de résistance, ils peuvent aller d'une bactérie à l'autre, mais pas forcément d'une bactérie pathogène à une autre bactérie pathogène. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum qu'il y ait cette pression de sélection qui est la présence d'un antibiotique.
C'est ça. Donc on paye aussi l'utilisation massive de ces médicaments.
Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'en présence d'antibiotiques, si une bactérie a muté ou a acquis un petit fragment d'ADN, là on sélectionne cette bactérie-là.
Pascal Cossard, vous citez un acronyme, ESCAPE, pour désigner les bactéries les plus dangereuses. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, expliquer pourquoi elles préoccupent tant l'OMS?
Écoutez, il y a Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, je ne suis peut-être pas arrivé...
Entérobactères, voilà. Etc., etc.
Bon, c'est-à-dire que toutes les bactéries pathogènes ne sont pas forcément les plus dangereuses. Mm-hmm. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment dangereuses. Par exemple, Staphylococcus aureus, le staphylococque doré, est vraiment très important. Il a réussi à devenir résistant aux antibiotiques et il est responsable d'infections qui sont résistantes au traitement. Parce que, en plus, ce staphylocoque, il a la capacité de se mettre à des endroits qui ne sont pas forcément très accessibles quand on traite avec des antibiotiques.
Donc, ces super bactéries dangereuses, elles échappent finalement à tous les traitements.
Il ne faut pas dire tous les traitements, on va dire à beaucoup de traitements. Mmh. Donc, on a une série d'antibiotiques. Et il y en a qu'on garde pour les derniers recours. Ouais. Mais quelquefois, la maladie est allée tellement loin que le pauvre malade, il est très très affecté.
Pascal Cossard, on parle souvent d'une crise sanitaire à venir liée à l'antibiorésistance, mais en fait, on est déjà dedans. C'est ça qu'on est en train de se dire depuis le début de cette émission quand même.
Ah, on est dedans. D'ailleurs, la sirène d'alarme avait été tirée par l'OMS très peu de temps après l'an 2000. Donc on est vraiment dedans.
Comment vous expliquez que les grands laboratoires pharmaceutiques aient presque abandonné la recherche autour des antibiotiques aujourd'hui? Parce que justement, il y a une impasse face à la résistance ou...
Non, je pense que c'est une histoire de finances. C'est-à-dire qu'un antibiotique ne produit pas suffisamment de revenus pour les grandes pharma par rapport à d'autres médicaments comme le traitement de l'obésité ou le traitement des maladies cardiovasculaires ou le traitement du cancer.
Le modèle économique ne fonctionne plus autour des antibiotiques.
Oui, c'est exactement ça.
Ouais.
La recherche pour retrouver des nouveaux antibiotiques se fait dans les laboratoires académiques, pour le moment, essentiellement.
Donc les firmes se tournent vers des traitements chroniques ou rentables, en
absolument.
C'est ce qui se passe. Dans vos travaux, vous insistez sur le lien entre la santé humaine, la santé animale et environnementale. Cette approche-là, on l'appelle « One Health ». C'est un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que c'est désormais incontournable, surtout quand on veut s'attaquer à cette histoire d'antibiorésistance ?
C'est absolument incontournable d'avoir à l'esprit ce concept de One Health. Le concept de One Health, c'est que tous les problèmes de santé sont à considérer dans le cadre de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement. Mmh. Vous ne pouvez pas parler d'antibiorésistance chez l'homme sans vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe chez l'animal et qu'est-ce qui se passe dans l'environnement ?
Parce que cette résistance, finalement, elle circule entre tout le monde, c'est ça ?
Parce que les antibiotiques circulent, les bactéries résistantes circulent. Donc les bactéries résistantes circulent chez les hommes, entre hommes. On ne peut pas dire qu'elles passent directement de l'animal à l'homme, mais en tout cas, elles peuvent passer de l'animal au sol, aux rivières, à l'océan, et elles peuvent passer donc de l'environnement aux animaux ou à l'homme. Donc,
oui, parce vraiment que les antibiotiques utilisés dans les élevages, par exemple, contaminent massivement les sols et les rivières, et leurs effets remontent la chaîne alimentaire, en fait. C'est ça que vous expliquez aussi.
La chaîne alimentaire, ou éventuellement, dans l'environnement, dans les sols, on peut retrouver des antibiotiques, ce qui est tout à fait regrettable. Mmh. Et puis, on va sélectionner des bactéries résistantes à différents endroits qui ne sont pas forcément que chez l'homme.
Pascal Caussard, est-ce que le Covid-19 a changé un peu notre rapport aux microbes et aux virus, là, a posteriori, puisqu'on a un peu de recul maintenant sur la question, 5 ans plus tard ? Comment vous analysez, vous, cette séquence ?
J'analyse ça de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que les gens se sont aperçus qu'il peut y avoir l'arrivée d'un virus qui contamine toute la planète.
Donc ça, c'est la puissance du microscopique quand même.
C'est la puissance. Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas forcément armés contre tout et qu'il peut y avoir l'émergence de nouvelles bactéries, l'émergence de nouveaux virus, l'émergence de nouvelles maladies. Et ça, pas seulement dans les pays en voie de développement, c'est aussi vrai dans les pays en Europe, aux États-Unis, etc. Ce que le Covid-19 a réveillé, c'est des attitudes très claires par rapport à la science, par rapport aux vaccins. Et on a tous entendu des réflexions de toutes sortes sur ces sujets-là. Et ça varie sur les pays. J'étais l'autre jour en Espagne où j'apprends que, en Espagne, les gens se sont vaccinés et sont pro-science à 98%. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose en France. Et aux États-Unis, vous connaissez la situation qui est absolument dramatique.
Mmh. Dramatique. Avec le rejet de la vaccination, par exemple.
Avec le rejet de la vaccination, avec le licenciement de nombre de personnes qui travaillaient au CDC, c'est-à-dire le Centre pour les maladies infectieuses.
Tout ça de la part du gouvernement américain.
Oui, et ça c'est une catastrophe, parce que la santé c'est un problème planétaire. Mmh. Et si la couverture vaccinale par exemple n'est pas suffisante aux États-Unis, il y aura des retombées en France, il y aura des retombées en Europe, il y aura des retombées ailleurs qu'aux États-Unis. On va retrouver de la rougeole en France si on ne vaccine pas contre la rougeole aux États-Unis.
Mais cet épisode de Covid-19, est-ce qu'il n'a pas éclipsé justement le problème de l'antibiorésistance dans le même temps ?
Il est évident qu'il a éclipsé à un moment donné d'autres problèmes de santé. Je me souviens d'un article qui disait « Si on donnait autant d'argent pour le paludisme qu'on en a donné pour Covid-19, il n'y aurait plus de paludisme dans le monde. » Bon, c'est vrai. Je crois que les gens ont pris conscience de l'intérêt de la science quand même.
Pascal Caussard, ce duel entre virus et bactéries, c'est presque une épopée naturelle que vous nous racontez. Et dans cette guerre fascinante, il y a justement des portes de sortie, des solutions. C'est aussi l'objet du livre. On va en parler dans un instant pour vaincre l'antibiorésistance et on va découvrir ces fameux phages redécouverts un siècle après leur invention et qui pourraient devenir nos alliés les plus précieux.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Nous prenons une souche bactérienne de référence, que nous appelons la souche mère. Nous multiplions sa population avant de la déposer dans une boîte de pétri, puis nous déposons les phages goutte par goutte sur le tapis bactérien en fonction de nos besoins. Nous pouvons obtenir près d'1 milliard de phages par millilitre, et parmi eux se trouvent des phages mutants. Cela signifie que certains de ces phages mutants seront plus efficaces que les autres pour infecter et tuer la bactérie. Donc, en les récupérant et en les isolant, nous pouvons ensuite les mettre au contact d'un nouveau tapis bactérien pour qu'il les infecte, mute, et l'opération est ainsi effectuée encore et encore. Nous pouvons améliorer la capacité de ces phages à contrôler la bactérie.
Voilà, toujours extrait d'une vidéo du CNRS en 2017 sur ces virus à l'assaut des bactéries, les mutants. Pascal Cossard, vous qui publiez « Virus contre bactéries, une solution pour vaincre l'antibiorésistance ». Je vous voyais réagir à ce qu'on écoutait là à l'instant.
Oui, je réagissais parce que l'on est en train de parler de mutants de bactériophages,
oui.
Alors qu'il y a déjà toute une jungle de bactériophages qui existe dans la nature. Avant de parler des mutants de bactériophages, on peut peut-être parler des bactériophages... tout seul.
Alors, dans votre livre, il est question justement des phages, ces virus qui peuvent sauver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phage exactement? C'est une catégorie de virus particulière?
Oui, les bactériophages. Ça veut dire des mangeurs de bactéries, ouais. Du grec phagein. Bon. Donc, ces bactériophages, ce sont des virus qui donc tuent les bactéries, mais ne n'attaquent pas les cellules animales, n'attaquent pas les cellules humaines.
Donc, ils sont inoffensifs pour l'humain, voilà. Ou les autres animaux.
Voilà. Donc, le bactériophage arrive sur la cellule et il a une capacité extraordinaire. Il injecte dans la bactérie son génome, on va dire son ADN.
Ouais.
Et la bactérie, elle est forcée de répliquer cet ADN, de le transcrire en ARN, de faire des protéines et de produire des nouveaux virus. Et en gros, vous avez un bactériophage qui a attaqué une bactérie. On se retrouve avec la pauvre bactérie qui a produit à peu près 100 jusqu'à 200 virus et elle éclate.
C'est ça, elle explose.
Elle explose.
C'est ce que vous décrivez. Elle explose pour libérer sa descendance.
La descendance du bactériophage, voilà.
Ouais, ouais.
Donc ce qui fait que, bon, c'est un phénomène qui est absolument incroyable. Évidemment, il existe des petites exceptions. Et ce morceau d'ADN que le bactériophage a injecté, de temps en temps, il peut aller s'insérer dans le génome de la bactérie, dans l'ADN, dans le chromosome de la bactérie. On appelle ça une bactérie lysogène. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de bactériophage et d'attaque des bactéries, je crois qu'on va rester à ce qu'on appelle des phages lytiques. Ils sont capables de lyser et de faire exploser les bactéries.
À quel moment on a découvert ça dans l'histoire de la science, Pascal Cossard?
Alors, on a découvert ça, c'est assez intéressant, en 1917. Mais c'est M. Félix Derel. Évidemment, il y avait des prédécesseurs qui avaient vu qu'il y avait dans certains milieux, des composants qui pouvaient éventuellement faire que les bactéries ne se multiplient pas. Mais ce que Félix Derel a trouvé...
À l'Institut Pasteur.
À l'Institut Pasteur, où il était stagiaire. Ce qu'il a trouvé, c'est qu'il existe effectivement ces virus qui sont capables de tuer les bactéries. Et en fait, il a tout de suite eu l'idée de dire si on a des virus qui tuent les bactéries, on a des virus qui peuvent tuer les bactéries qui donnent des maladies.
Donc on peut s'en servir pour soigner.
Et c'est lui qui a inventé le mot phagothérapie, la thérapie par des phages.
Et c'est un jeune stagiaire à l'époque, c'est ça?
À l'époque, oui, je ne sais plus exactement quel âge il avait, mais il n'était pas très âgé.
Donc il imagine la phagothérapie dès le début du XXe siècle.
Exactement.
Donc c'était une piste hyper prometteuse quand même,
c'était
non?
C'était prometteur. D'ailleurs, il a fait quelques petits tests pour vérifier que ce n'était pas trop dangereux pour les hommes. Il en a sûrement avalé, il en a fait avaler à ses collègues, et à l'hôpital Necker, il a commencé à guérir des petits malades qui avaient des dysenteries.
C'était la première maladie soignée avec
C'est là-dessus qu'il a commencé, parce qu'il avait découvert que quand il y avait des gens qui étaient en phase de convalescence après une dysenterie, il avait repéré qu'il y avait ces bactériophages qui avaient la capacité de tuer les bactéries.
Ouais.
Mais il ne les avait jamais vus. En fait, il disait « j'ai des virus », mais il ne les avait jamais vus. Il savait que c'était des particules qui passaient à travers des filtres sur lesquelles les bactéries restaient. Donc on mettait une culture où on avait mis ce qui pensait être un virus et les bactéries, et puis les mettait sur un filtre. Les bactéries restaient sur le filtre et passaient à travers le filtre ce qu'il appelait les virus.
Ouais.
Et en fait, ces virus, on ne les a vus qu'une vingtaine d'années plus tard.
En tout cas, l'idée était géniale quand même. Hein.
Ah, l'idée était géniale. D'ailleurs, il l'a tout de suite utilisée. Il a publié ça au compte-rendu de l'Académie des sciences. Il était très...
Et pourtant, cette piste, elle a été abandonnée quand même, quasiment.
Alors, oui, parce que finalement...
Cette phagothérapie.
Alors, la phagothérapie, bon, il a commencé à Paris. Il y a eu des phagothérapies qui ont commencé à prendre place dans différents pays d'Europe, aux États-Unis, et puis, on y reviendra, je crois, aussi en Europe de l'Est, Géorgie, en Pologne, en Russie, etc. Mais l'arrivée des antibiotiques a vraiment changé la donne.
Découverte de la pénicilline en 1928. Hein,
voilà.
On peut rappeler
la... Alors, on rappelle la date, 1928. Bon, il faut aussi dire que la pénicilline n'a pas été si facile que ça à purifier en grande quantité. Donc, on l'a utilisée vraiment vers les années 48, ouais. On va dire. Mais on a découvert la pénicilline, puis on a découvert la streptomycine. Et on s'est aperçu que, comparativement aux bactériophages, les antibiotiques... On peut les purifier en grande quantité. Ils ont un spectre d'activité beaucoup plus large que les bactériophages, parce que les bactériophages, ils s'attaquent à une bactérie, à une espèce de bactérie, et quelquefois même à certaines bactéries de l'espèce et pas aux suivantes. Donc il y a une spécificité des bactériophages.
Qui a un peu desservi finalement la cause.
Qui a desservi, mais qui, moi je trouve, qui est un gros avantage sur lequel on va pouvoir revenir. Mais en tout cas, le fait que les bactériophages ont été, balayés, si on peut dire, de la scène par les antibiotiques, c'est essentiellement le fait que les antibiotiques pouvaient être produits en grande quantité, qu'ils étaient plus stables, qu'ils avaient un spectre plus large.
Ouais.
Bon, et puis après, il y a eu d'autres petits problèmes qui étaient dus à M. Félix Derrel et d'autres problèmes que je peux rapidement exposer.
Qu'est-ce qu'il y a eu avec M. Félix Derrel, effectivement,
non, Pascal Cossard ? On va dire que la phagothérapie a commencé à poser des petits problèmes pour, on va dire, trois raisons. La première, c'est qu'elle ne marchait pas à tous les coups.
Mmh.
Et en fait, elle ne marchait pas à tous les coups. Pour une raison bien précise, c'est que les gens ne faisaient pas exactement la manip préliminaire qu'il fallait faire, c'est-à-dire d'isoler la bactérie du patient et de tester au laboratoire s'il y avait un bactériophage qui vraiment tuait cette bactérie.
Bon, ça on sait faire maintenant.
Ça on sait faire, mais, ça posait des problèmes. La deuxième raison, c'est que, les gens disaient, mais on n'est pas sûr que c'est un virus, et tout ça. Il y avait une grande controverse à propos du virus, donc ça a été balayé aussi. Et puis, il y avait le problème de M. Félix Derrel, qui était quand même un individu un peu particulier, qui critiquait facilement ses collègues, qui avait raconté des histoires sur son parcours. Son propre parcours. Il se disait canadien alors qu'il était français, il se disait médecin alors
un
qu'il avait...
Un peu mythomane, hein ?
Voilà, pas un peu, beaucoup.
Carrément.
Oui. Et donc, il y avait quand même eu un laboratoire du bactériophage qui avait été créé en France, hein, et on l'avait nommé directeur scientifique.
Mais il a un peu fatigué tout le monde, quand même.
Il a un peu fatigué tout le monde. Du coup, il a accepté un poste à Yale.
Ouais.
Et ça s'est pas si bien passé que ça, à Yale, d'ailleurs. Il a été obligé d'en partir.
Donc, la phagothérapie balayée, vous l'avez dit, par les antibiotiques, mais... qui est resté quand même, effectivement, dans les pays de l'Est, comme la Géorgie ou la Pologne, où cette pratique n'a jamais disparu.
Un début de réponse pourrait être trouvé dans une république de l'ancienne Union soviétique, la Géorgie, à la croisée des anciennes routes de la soie, pays natal de Joseph Staline. David Bajunashvili se bat contre l'un des pires problèmes médicaux, la résistance aux antibiotiques. Il se meurt d'une infection de l'estomac.
Ils m'ont parlé de ce docteur de Tbilissi qui fait des miracles, docteur Guram Gvasalia. On s'est précipité ici. Et maintenant, on espère le miracle.
Docteur Guram Gvasalia est l'un des principaux chirurgiens du pays et l'un des meilleurs spécialistes en matière d'application des phages.
Extrait d'un infrarouge sur France 2 en 2006 autour de la guerre des phages, l'Institut Eliavia à Tbilissi, Pascal Cossard, où on continue à soigner avec des phages.
Oui, alors cet Institut Eliava doit son nom à Georges Eliava, qui était un ami de M. Félix Derrel. Et quand il a quitté Yale, Félix Derrel, il a été invité par Georges Eliava, qui avait travaillé avec lui à l'Institut Pasteur, à vraiment structurer, peut-être pas démarrer, mais en tout cas structurer son institut de phagothérapie à Tbilissi.
Et c'est resté.
Et ils ont continué. Ils n'ont jamais arrêté. Alors que, comme vous le savez, comme on le disait, on avait arrêté en Europe, aux États-Unis, etc.
Est-ce qu'on
ceci
peut dire...
dit,
oui.
Ceci dit, en Europe, on commercialisait encore des phages jusque dans les années 70. Dans le Vidal, qui est donc le gros
le
livre
dictionnaire
rouge,
médical,
qu'utilisé par les pharmaciens et par les médecins, on vendait encore des ampoules de bactériophages pour traiter des infections intestinales, des infections...
Est-ce qu'on peut dire que les phages sont les prédateurs naturels des bactéries?
Oui.
C'est ça?
Oui.
C'est vraiment leur rôle
C'est-à-dire qu'ils ont un rôle de recyclage, ils ont un rôle de...
Oui. Ouais. La phagothérapie, donc longtemps oubliée, serait-elle en train de renaître aujourd'hui dans plusieurs pays? On verra dans un instant où on en est concrètement et comment ça pourrait transformer la médecine de demain. Pascal Cossard, vous êtes notre invité avec ce livre « Virus contre bactéries » chez Odile Jacob.
France Inter. La Terre au carré.
Tous les jours, dans la pharmacie de l'hôpital de la Croix-Rousse, les préparateurs conditionnent les traitements destinés aux patients. Mais le remède qui se trouve dans cette seringue est un peu particulier. Il s'agit d'une solution contenant des virus, bien différents des médicaments qu'ils utilisent d'ordinaire.
On a mis en place un certain nombre de précautions pour pouvoir manipuler ces produits au milieu de notre activité de préparation de médicaments stériles. Ce sont des virus qui s'attaquent spécifiquement à une bactérie, donc ils sont inoffensifs pour les cellules du corps humain, mais très spécifiques de bactéries.
Ces virus spécifiques sont les ennemis naturels du staphylocoque doré. Ils vont automatiquement se fixer sur la bactérie, l'infecter et s'en servir pour se multiplier, jusqu'à la détruire.
Reportage de France 3 à Lyon en 2022. Pascal Cossard, vous qui êtes professeur émérite de microbiologie, qui publiez chez Odile Jacob « Virus contre bactéries, une solution pour vaincre l'antibiorésistance ». On l'utilise en France alors, la phagothérapie? C'est revenu un petit peu dans les intérêts, dans les centres d'intérêt en tout cas des chercheurs?
Alors, comme c'était dit à Lyon, il y a vraiment des chercheurs, des cliniciens, des pharmaciens qui sont absolument convaincus que la phagothérapie a un avenir pour guérir les maladies qui sont dues à des bactéries antibiorésistantes.
Mais ils sont marginaux ?
Non, ils sont pas du tout marginaux, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que utiliser des virus a été considéré comme un remède qu'on peut prendre vraiment en mode compassionnel, c'est-à-dire quand on est en dernier recours, quand on est dans une impasse thérapeutique, à ce moment-là, le médecin peut contacter l'agence du médicament pour savoir si on va pouvoir mettre en place une phagothérapie. Et on isole la bactérie, on regarde si on a le phage qui convient et on peut traiter des patients comme ça. Donc, ils le font.
Mais qu'est-ce qui freine quand même l'essor de ces essais cliniques autour de la phagothérapie en France?
Ce qui freine, c'est que on ne l'utilise que si on n'a pas d'autres moyens pour l'utiliser. Alors qu'en fait, on pourrait très bien préconiser l'usage de bactériophages dans le cas d'une infection d'une personne qui est par exemple avec un système immunitaire très affaibli ou une personne très âgée. On peut les utiliser en, disons, de concert. On pourrait utiliser des antibiotiques et des bactériophages pour vraiment lutter contre la maladie.
D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Comment est-ce que naturellement on résiste nous-mêmes aux bactéries résistantes, Pascal Cossard? Est-ce qu'on est en capacité de le faire sans antibiotiques, par exemple?
Un homme en bonne santé est capable de résister.
Femme, d'ailleurs.
Est capable de résister à une infection par une bactérie pathogène. C'est pour ça qu'on dit n'utilise pas d'antibiothérapie si ce n'est pas absolument indispensable. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le système immunitaire va essayer soit d'englober la bactérie, de la tuer, soit d'utiliser d'autres systèmes pour lutter contre cette bactérie. Mais quand vous utilisez des antibiotiques, les gens n'ont pas carrément en tête ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'antibiotique soit empêche la bactérie de se multiplier, soit l'antibiotique tue les bactéries. Donc dans un cas, on a des bactéries qui sont restées dormantes, dans l'autre cas, on a des corps bactériens qui sont morts mais qui sont là. Et le système immunitaire fait le ménage, va débarrasser l'organisme de tout ça.
Il a cette capacité.
Oui, il a cette capacité. Mais chez des personnes très âgées, le système immunitaire ne marche pas très bien. Donc cette capacité d'éliminer les bactéries et tout ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça que je propose d'utiliser antibiothérapie et phagothérapie dans certains cas où le système immunitaire ne va plus bien du tout et avant d'arriver à une impasse thérapeutique. Ouais. C'est ça surtout, c'est que pourquoi attendre d'être en dernier recours ?
D'autant que vous évoquez des succès spectaculaires chez certains patients, lesquels par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Bah, l'exemple, disons qu'il y a eu un exemple qui a commencé aux États-Unis à vraiment réveiller la phagothérapie, c'était l'exemple du mari de Stéphanie Stratti, qui était une Américaine dont le mari avait attrapé une bactérie qui s'appelle Acinetobacter baumannii. Il était à la mort et elle se souvenait qu'on pouvait utiliser des bactériophages. Elle a fait isoler des bactériophages et ils ont publié ensemble ensuite un bouquin qui s'appelle The Predator. Et donc, vraiment, ça a vraiment réveillé l'intérêt aux États-Unis. En France, ben, vous avez donc toute cette infrastructure à Lyon et puis d'autres personnes, dont moi, qui essaient de dire qu'on a là un outil extraordinaire. D'autant que, à l'heure actuelle, les recherches sur les bactériophages sont en train d'exploser. Parce qu'on se rend compte que ben, les bactéries, elles sont capables aussi de lutter contre les bactériophages. Mmh. Et de même qu'on a des bactéries qui sont devenues résistantes, on a des bactéries qui peuvent éventuellement s'armer contre les bactériophages. Mais, comme les bactériophages sont très spécifiques, on peut utiliser des cocktails de bactériophages. Et si par hasard la bactérie va devenir un petit peu résistante à l'un, elle ne sera pas résistante aux trois bactériophages en même temps. Donc, en phagothérapie, en général, on utilise un cocktail de bactériophages.
Donc, ce que vous nous dites, c'est à la lumière de ce qu'on disait au tout début de l'émission, à la lumière de l'antibiorésistance mondiale qui ne va que s'aggraver dans les prochaines années, on aurait bien tort de se priver d'une opportunité comme celle-là.
Ah, on aurait vraiment bien tort de se priver. D'autant que, et ça j'en parle aussi, c'est qu'il y a une technique très nouvelle qui est de fabriquer in vitro des bactériophages. C'est-à-dire que vous pouvez faire la synthèse de l'ADN du bactériophage. Mmh. Cet ADN, vous le mettez dans un système de transcription-traduction, c'est-à-dire un milieu de culture dans lequel on va fabriquer des petits virions sans avoir besoin de mettre ça avec des bactéries.
Et comment, Pascal Cossard, on choisit le bon phage pour le bon patient ? Comment on s'y prend alors ?
Alors là, c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider. C'est-à-dire qu'on saura que, par exemple, pour staphylocoque, on cherche un bactériophage qui est comme ci ou comme ça. Mmh. Et en fait, ce qu'on cherche surtout, c'est d'avoir un bactériophage qui soit capable de reconnaître une structure sur la bactérie. C'est le problème du récepteur, le récepteur du phage, qui est le problème majeur. Et donc, on va essayer de trouver le bon bactériophage pour la bonne bactérie. Et il y a des start-up qui commencent à fabriquer des bactériophages comme ça, in vitro. C'est pour ça que je fais le parallèle entre, disons, la mise en place des vaccins ARN messagers, qui ont été quand même une révolution de palais, et pourquoi on n'aurait pas une révolution en créant des bactériophages. Vous savez, en France et ailleurs, il y a une frilosité pour cette phagothérapie.
Pourquoi ? En fait, c'est l'image d'une thérapie utilisée en Europe de l'Est avec...
Il y a ça, il y a le contexte. Aux États-Unis, on considère que, oui, c'est une technique qui est utilisée en Europe de l'Est, derrière l'ancien rideau de fer, etc. Il y a un doute de ce côté-là. Mais il y a aussi beaucoup de microbiologistes, des vieux microbiologistes, vous savez, de ma génération, qui n'y croient pas vraiment, ça marchait pas très bien, etc. Mais moi, je crois que si on prend toutes les mesures, toutes les précautions, on y la bactérie, on trouve le bon bactériophage, on purifie bien ce bactériophage, qu'il n'y ait pas des restes de bactéries qui produisent d'inflammation, etc. Les travaux qui sont publiés, qui ont été publiés récemment, montrent qu'on peut injecter par voie intraveineuse des bactériophages qui vont réussir à arriver jusqu'au poumon. On a guéri des patients, des hommes, des femmes, qui avaient des problèmes pulmonaires avec une bactérie qui est proche de Mycobacterium tuberculosis, qui s'appelle Mycobacterium abscessus. Et ces patients ont été guéris. Donc vraiment, là, il y a une nouvelle thérapie.
Vous y croyez, en tout cas, Pascal Cossard. Hein. C'est votre combat, j'ai l'impression. Même,
moi, j'y crois, parce que je crois que le vaccin ARN messager est vraiment la preuve qu'il faut sauter sur les nouvelles technologies. Il faut croire en la science, il faut croire aux avancées. Et malheureusement, les antibiotiques... Et ben, il y a eu leur période de gloire. Mmh. Il faut les garder pour les cas où on est obligé de les utiliser.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour des banques de phages comme on a Des banques de sang, par exemple.
Mais on n'imagine pas. C'est en train de se mettre en place partout. Et même le gouvernement français a donné de l'argent pour qu'on puisse constituer une banque de bactériophages.
Donc des bibliothèques de phages, en fait. Hein, c'est ça. Prêtes à être utilisées selon les besoins.
Exactement. Hein. Exactement.
Donc cette médecine du futur, parce que c'est une médecine du futur, finalement, vu qu'on a ignoré ce qui se passait autour de nous, semble très, à la fois high-tech... Et aussi très artisanal, en fait, il y a les deux aspects dans
si ce... on veut, oui, mais en tout cas, pour moi, ce qui a d'important, c'est que on peut faire le rapprochement avec tout ce qui est médecine spécialisée, médecine vraiment personnalisée. Mmh. Dans le livre, je fais le parallèle qui a été fait, pas par moi, mais avec les CAR T-cells, où quand on a un malade qui a un cancer, on isole ses cellules, on les travaille de façon à ce qu'elles soient capables de reconnaître les cellules cancéreuses, on les réinjecte au patient, et ces cellules s'activent en même temps qu'elles sont capables de trouver les cellules cancéreuses et de guérir le patient. Les CAR T-cells, c'est quand même une des grands succès de la médecine actuellement. Je pense que la phagothérapie pourrait devenir vraiment un grand succès aussi.
Est-ce que ces phages, ces bactériophages, ces mangeurs de bactéries, pourraient remplacer totalement les antibiotiques, selon vous ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut considérer qu'on a des antibiotiques, qu'on aura des nouveaux antibiotiques, parce qu'on a aussi des nouveaux moyens de chercher des nouveaux antibiotiques. Mmh. Je lisais par exemple un article où on fait ce qu'on appelle de la métagénomique. Vous prenez par exemple du sol, vous extrayez l'ADN, vous faites la séquence de tous les ADN qui sont présents là-dedans, et si vous trouvez des grands morceaux d'ADN qui ont l'air de coder pour une molécule qui ressemble à un antibiotique qu'on a déjà utilisé, vous essayez de le fabriquer in vitro et de tester si ça marche. Mmh. Puis on en a trouvé deux. Il y en avait deux qui ont été trouvés dans cette étude. Donc je pense qu'il faut, rechercher des nouveaux antibiotiques. Il faut utiliser la phagothérapie avec les antibiotiques. Mmh. Mais aussi et surtout, il faut essayer de ne pas être malade. Et donc de se protéger des maladies en se faisant vacciner.
Ouais. Et ça demande aussi un grand changement culturel de la part de la médecine, hein. Cette approche...
Oui, il y a un grand changement culturel, mais c'est surtout une information que les gens aient bien à l'esprit que ça existe. Moi, j'ai rencontré des médecins qui ignoraient ce que c'était qu'un bactériophage.
Donc, vous finissez quand même votre livre, et c'est l'objet aussi de ces solutions, par une note d'optimisme. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, reprendre la main, à votre avis ?
Ah, bien sûr que je suis optimiste, parce que je pense qu'on peut quand même... on a appris tellement de choses sur les bactéries, on a appris tellement de choses sur les bactériophages que... Ça vaut le coup d'être optimiste, oui, bien sûr.
Ouais. Donc, il faut remettre ça au goût du jour et imiter nos voisins de l'Est qui, eux, n'ont jamais abandonné cette piste.
Nos voisins de l'Est, mais aussi nos voisins belges, parce qu'en Belgique, la phagothérapie est autorisée. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'hôpital de la Reine Astrid, vous avez un groupe de recherche mené par M. Jean-Paul Pierneau qui fabrique des bactériophages, qui les produit, et ils sont utilisables. N'importe quel médecin en Belgique a le droit de prescrire un bactériophage. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des Français qui font appel à cet hôpital.
Ce qui est quand même dingue quand on sait que cette histoire commence en France à l'Institut Pasteur, Pascal Cossard. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure.
Voilà, et je parle de Belgique, mais je voudrais parler aussi du Portugal, qui a aussi pris cette attitude-là.
Merci beaucoup Pascal Cossard. Je renvoie sur ce petit livre accessible, hein, parce que vous avez fait un travail de vulgarisation précisément pour parler de la phagothérapie virus contre bactéries. Une solution pour vaincre l'antibiorésistance, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.